La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 $ par semaine.
Jaguar nous présente la I-Pace, ça va impressionner. TM4 passe aux mains de Dana. La XC40 sera la première Volvo 100% électrique. Le réseau Flow s'étend jusqu'en Nouvelle-Écosse. La version 2019 de la Chevrolet Volt aura un chargeur de 7,2 kW. La Tesla Model 3 est maintenant produite à 5000 unités par semaine. Le programme Rouler vers la Gaspésie, on en parle avec un de ses investigateurs. Qu'est-ce qui dure plus longtemps, un véhicule électrique ou un véhicule à essence? Tout ça, et bien plus encore, dans ce 37e épisode du balado, Silence, on roule! Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado qui est dédié 100% aux voitures électriques. J'espère que vous avez bien, vous allez bien, vous avez passé un bon deux semaines, que vous n'avez pas trop souffert de la canicule qui frappe le Québec parce que, oh oui mes amis, il fait chaud. Il fait même très chaud au Québec depuis une semaine, là, des températures, en tout cas dans la région de Montréal, qui se tiennent autour de 35 degrés Celsius de façon continue depuis une bonne semaine. Ça met à l'épreuve nos voitures électriques qui fonctionnent très bien, soit dit en passant, dans les grandes chaleurs de l'été comme ça. On ferme nos fenêtres, on met l'air climatisé et puis on profite là, en toute quiétude de nos voitures électriques d'une température qui est clémente. De plus, des chaleurs comme celle-là, ben, ça nous rappelle que c'est l'été hein, et que c'est le temps des vacances. Et pour ma part, ben, ça sera les vacances après, dans deux semaines. Donc, il reste le présent podcast, un autre dans deux semaines. Et ensuite, ben, malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, il y aura une petite pause. Donc, je vais sauter un podcast. Donc, il y aura une pause, dans le fond, d'un mois là, entre le podcast dans deux semaines et le suivant. Donc, ça va me permettre de profiter, moi aussi, de mon côté, là, des vacances, décrocher un peu, parce que je vous avoue que la préparation du podcast, l'enregistrement, les entrevues cumulées avec les autres responsabilités là au sein de l'association, ben ça demande beaucoup de temps. Ça me fait plaisir de le faire. Ceci dit, je le fais avec joie, plaisir, dévouement, sans compter les heures. Mais quand les vacances arrivent, ben on en profite, puis on décroche pleinement, on fait d'autres choses, on passe du temps en famille. J'espère que vous faites, soit dit en passant, la même chose de votre côté et que vous profitez là, des vacances pour être 100% avec votre famille et les gens que vous aimez. J'en profite pour saluer au passage des gens qui prennent le temps de nous écrire, de nous donner des feedbacks. Cette semaine, je salue Philippe Lemay qui s'est commis là, à m'envoyer un petit courriel, me féliciter et d'ailleurs me suggérer un sujet pour un prochain balado. Mon cher Philippe considère ta demande comme en traitement, c'est-à-dire qu'on est en train de ramasser l'information nécessaire à être capable d'organiser le thème que tu nous as demandé. Donc, ça devrait venir dans les prochains mois. Vous aussi, si vous avez des suggestions, des idées, vous-même, vous avez un sujet que vous voudriez nous parler parce que vous êtes un connaisseur, un expert ou un adepte de quelque chose qui est en lien avec la voiture électrique, n'hésitez pas à m'écrire martin@aveq.ca. On est toujours à la recherche de sujets qui pourraient intéresser nos auditeurs. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé à participer ou encore s'il y a un sujet que vous voudriez approfondir un peu puis que vous voudriez qu'on traite, ben gênez-vous pas, faites la demande. C'est là pour ça. On va écouter vos suggestions puis on va essayer d'y répondre le mieux possible. Je vous rappelle que vous pouvez aller faire un petit tour sur iTunes, donner un petit 5 étoiles au podcast si ça vous chante. Ça nous aide à être placé un petit peu plus haut dans la sélection des podcasts suggérés par Apple. On est disponible également sur le iTunes Store, sur Google Play et tous les grands moteurs et sites de balado-diffusion. Et je vous rappelle finalement que la meilleure façon de nous écouter, ce n'est pas via notre site web. Oui, vous pouvez le faire, bien sûr, mais la meilleure façon, c'est de vous abonner pour recevoir automatiquement les balados sur votre appareil mobile. Toute la procédure se trouve sur notre site web au www.aveq.ca /balado. Alors, cette semaine, on a encore une fois beaucoup de pain sur la planche. On a plusieurs actualités. On va avoir une entrevue où on va vous parler un peu on va vous parler un peu de ce qui se passe au niveau des bornes de recharge rapide autour de la Gaspésie. Là, on est à l'aube des vacances. Peut-être que vous allez faire un tour là-bas. Beaucoup de bornes, beaucoup de belles choses. Je veux qu'on parle un peu de ce succès-là d'installation des bornes dans la Gaspésie. Je dis souvent la blague, il est probablement plus facile de circuler autour de la péninsule gaspésienne en auto électrique que dans la région de Montréal, parce que toute proportion gardée en termes de disposition, de cohérence de disposition des bornes de recharge, la Gaspésie est assez dure à battre, mes amis. Donc, je pense que ça va être bien intéressant. On va pouvoir parler de tout ça. On aura aussi la chronique voiture électrique 101. Mais sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums.
On a maintenant eu les premières impressions de la Jaguar I-Pace 2019. Donc, cette voiture tout à fait sublime. On sait qu'il est toujours question de tradition quand on parle de la Jaguar, mais on oublie trop souvent que l'histoire de cette marque britannique est parsemée de coups d'audace, d'innovation. Donc, on parle ici d'un multisegment électrique spectaculaire qui est nettement moins cher que son rival direct. On croirait revivre le lancement de la légendaire E-Type. Donc, ceux qui n'ont jamais vu la Jaguar I-Pace, il faut jeter un coup d'œil à ce magnifique véhicule qui sera disponible en 2019 dans sa version actuelle. On a appris que Hydro-Québec a passé le contrôle de sa division TM4, qui est spécialisée en tout ce qui touche les moteurs électriques, à la firme Dana Incorporated pour une valeur de 165 millions de dollars. Donc, c'est à deux jours de la fête nationale du Québec, le 22 juin, qu'il y a eu la conclusion d'un partenariat de co-entreprise avec la société qui est cotée à la Bourse de New York, là, Dana Incorporated, entre TM4 là, et Dana. Et TM4 viendra le fournisseur de Dana pour les moteurs électriques et les ondulateurs de systèmes de commandes associées. C'est la XC40 qui risque de devenir la première Volvo 100% électrique. C'est ce qu'a confirmé Volvo, en tout cas. Donc, la XC40, premier modèle 100% électrique de la gamme. Et cette annonce a été faite là en marge de la présentation de la S60. Et Thomas Ingnalt, qui est le directeur du design, en a encore dit un peu plus, là, que le XC40 électrique arriverait juste après le lancement du deuxième modèle Polestar. Les réservations de la Kona électrique débutent ici au Québec et on apprend que Hyundai annonce que 7000 réservations de la Kona électrique ont été faites en Norvège. Donc, la Kona commence là-bas à un prix équivalent là, à 39 813 US pour l'option avec la batterie de 64 kWh, la seule version qui sera disponible au Québec également. Les livraisons en Norvège vont commencer dès le 1er juillet 2018. Ça devrait être un peu plus tard en cours d'année pour ce qui est des livraisons au Québec. C'est le réseau de bornes de recharge fort populaire au Québec, le réseau Flow, qui a été choisi par Nova Scotia Power, le principal fournisseur d'électricité là, de la région de la Nouvelle-Écosse, pour fournir l'infrastructure de recharge pour un réseau de 12 bornes rapides à travers la province. Celles-ci vont être intégrées au réseau Flow, ce qui permettra aux électromobilistes québécois de s'y rendre avec facilité grâce à l'interopérabilité des réseaux Flow et circuits électriques. L'initiative rappelle celle qui avait été mise en œuvre là, par NB Power Nouveau-Brunswick l'an dernier. AD Energy avait également été retenue comme fournisseur d'infrastructures pour la province. Par l'entremise des deux projets, AD Energy laisse son empreinte dans le développement de l'électromobilité des maritimes. Plus largement, cela renforce leur position en tant que leader canadien de solutions de recharge pour véhicules électriques et ils deviennent ainsi l'opérateur du plus grand réseau de recharge au Canada d'un océan à l'autre. Dans un reportage de La Presse, on apprend que les véhicules électriques sont ni plus ni moins qu'un changement de paradigme au niveau de la revente. On sait en effet qu'acheter une voiture, c'est rarement un investissement, mais dans le cas de la voiture électrique, ça s'avère que c'est pas un gouffre financier comme pourrait l'être une voiture à essence, car les véhicules électriques se revendent à très bon prix, parfois même plus cher que le véhicule neuf. Le marché du véhicule électrique usagé le vend dans les poupes et ce phénomène s'explique par trois facteurs. L'offre insuffisante de véhicules neufs qui force beaucoup d'acheteurs aller vers l'usager, la durabilité exceptionnelle dont font preuve les véhicules électriques et d'une meilleure valeur de revente, entre autres grâce à l'aide gouvernementale à l'achat de 4 000 $. Les véhicules électriques luxueux sont aussi fortement avantagés par une meilleure valeur de revente par rapport à un coût de possession très avantageux. Donc tout cela, on apprend ça dans un article de La Presse il y a quelques jours. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les objectifs du gouvernement italien sont très ambitieux. En effet, ce n'est pas moins que 1 million de véhicules électriques sur les routes en 2022 qui est visé par le gouvernement italien. Alors qu'en matière d'électrification des transports, le parc automobile italien actuellement est très en retard par rapport à la plupart des autres pays européens. Le gouvernement veut donc donner un coup de barre ambitieux pour redresser la situation. 1 million de véhicules électriques pour 2022, c'est un objectif qui pourrait coûter près de 10 millions d'euros à l'Italie. C'est le 1er octobre 2018 qu'entreront en vigueur les modifications au Code électrique, chapitre 5 du Code de la construction du Québec, et certains de ces ajouts visent précisément à s'adapter dès maintenant à la popularité grandissante des véhicules électriques. Selon le site de l'APCHQ, il sera maintenant exigé d'installer l'infrastructure de base pour l'alimentation éventuelle de bornes de recharge 240 volts pour véhicules électriques lors de la construction de maisons unifamiliales, de duplex et de triplex et de quadruplex ayant des espaces de stationnement ou des abris pour voitures. Plus précisément, il faudra installer dès la construction un câble électrique ou un conduit dans lequel il sera possible de passer le câble électrique en prévision du branchement d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Le câble ou le conduit devra provenir du panneau électrique et aboutir dans une boîte de sortie située dans le garage ou près de la ligne de stationnement pour pouvoir alimenter un circuit de 40 ampères. À cet effet, un espace supplémentaire devra être réservé dans le panneau de distribution électrique et un dispositif de protection bipolaire installé. Le code prévoit aussi la norme d'installation et les prises de courant et les méthodes de calcul pour la charge applicable. Une période de transition de 6 mois s'appliquera dès le 1er octobre et permettra à l'industrie de s'adapter aux nouvelles exigences. Les chantiers ayant commencé avant le 1er avril 2019 pourront être effectués au choix selon les exigences du code électrique actuel ou modifié. Par contre, pour tout chantier débutant après le 1er avril 2019, les nouvelles exigences s'appliqueront et ce de façon obligatoire. Grande nouvelle pour les propriétaires de Chevrolet Volt. Le modèle 2019 sera finalement équipé d'un chargeur de 7,2 kW. Grâce à ce nouveau chargeur, une recharge complète pourra être complète en 2,3 heures. Ce nouveau système standard sur la Volt 2019 version première est disponible sur la version LT. Ce sera là dès la sortie des nouveaux modèles. On vous rappelle qu'actuellement, les chargeurs sur les Chevrolet Volt sont des chargeurs de basse puissance qui rechargent très lentement la batterie du populaire modèle de Chevrolet. Signe d'un changement de mentalité ou en tout cas d'une adaptation de l'industrie, BP, la très populaire compagnie d'essence très présente en Europe, rachète ChargeMaster, oui, le réseau de bornes de recharge le plus important des Royaumes-Unis. BP s'attend à ce que l'énergie renouvelable soit la source de carburant en croissance la plus rapide dans les prochaines années. Il a déclaré que les véhicules électriques au Royaume-Uni devraient passer de 135 000 unités à 12 millions d'ici 2040. ChargeMaster compte actuellement 6 500 points de recharge et vend également des bornes de recharge à usage domestique. Connaissez-vous la compagnie de taxi chinoise Didi? Juste pour vous donner quelques statistiques, en 2017, en Chine, Didi a 450 millions d'utilisateurs, 21 millions de chauffeurs et utilise 260 000 véhicules électriques. Vous avez bien compris, 260 000 véhicules électriques pour une compagnie de taxi en Chine. Ils visent maintenant 2 milliards d'utilisateurs d'ici 2020 et le nombre de véhicules électriques disponibles dans la flotte de Didi Chuxing augmentera à 1 million d'ici 2028. Didi Chuxing aimerait avoir 10 millions de véhicules électriques en opération avec l'aide de 31 manufacturiers tels Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi Alliance, Volkswagen, BAIC et BYD. Avis aux détracteurs de Tesla, la très populaire Model 3, dans le deuxième quart de 2018, a atteint 28 578 unités pour un total de 53 339 unités. Donc, les 28 518 Model 3 dépassent la production combinée de la Model S et de la Model X. Ceci représente une hausse de 55% comparativement à la production du premier quart. Il y a eu presque trois fois plus de véhicules du type Model 3 produits dans le deuxième quart que dans le premier quart et l'objectif de production de 5000 véhicules par semaine a été atteint. Les parts de marché de la voiture électrique au Canada atteint 2,3 % en mai. La barre du 1 % a été atteinte pour la première fois en septembre 2017. Il va sans dire que les 456 Model 3 vendus en mai lui donnent la quatrième place dans les ventes de la voiture électrique au Canada. Les ventes de la Nissan Leaf, de la Chevrolet Bolt, de la Volt, de la Mitsubishi Outlander, de la Toyota Prius Prime, telles que rapportées dans le site web Green Car Reports de mai, nous permettent de constater là, qu'on a atteint des ventes de 5000 véhicules électriques en mai et le mois de mai a été de loin le meilleur mois de vente de voitures électriques à ce jour au Canada.
La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité.
Alors, cette semaine, je suis en compagnie de Danny Bergeron. Danny, qui s'est fait connaître dans les dernières années avec le projet Rouler vers la Gaspésie. Bonjour, Danny.
Bonjour, Martin.
Écoute, Rouler vers la Gaspésie, c'est un projet qui a été suivi de très près, en tout cas par les gens de l'AVEC, parce qu'on trouvait que c'était une initiative tout à fait extraordinaire. Peut-être que les gens qui sont un peu moins dans le milieu n'ont pas vu ce projet-là, dans toutes ses coutures, mais on sait que c'est un réseau de bornes de recharge en Gaspésie, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de mettre la table puis d'expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, tout d'abord, Danny, explique-nous ce qu'est Rouler vers la Gaspésie et quelle est ton implication, toi, dans ce projet-là.
Hey, mon Dieu, Rouler vers la Gaspésie, là, on est en 2018, ça remonte déjà à 2014. Ça remonte déjà à l'époque où est-ce qu'on avait, on n'avait jamais une connaissance ici en 2014 qu'il y avait une Volt en Gaspésie. Puis au moment où est-ce que c'était à l'époque de penser changer la voiture de livraison pour mon commerce, pour la pharmacie. Alors bon, l'idée des véhicules électriques m'est revenue. Donc, j'avais un copain qui était amateur de voitures aussi des années 2000 quand Tesla était sorti. Bon, je savais que c'était pas très loin, mais bon, on s'entend, une roadster, le Tesla n'était pas à portée de main. Alors, mais quand est arrivée la Volt et puis donc toutes les possibilités qui venaient avec, ben, la passion est ressortie comme d'un coup sec. Faut pas m'en demander plus, mais ça a parti cet automne-là. Puis avec mon implication aussi en Gaspésie, avec mon implication dans la corporation de développement, donc ma fibre entrepreneuriale, et puis ça m'a amené pendant l'automne finalement à m'intéresser évidemment à l'infrastructure de recharge. Et puis on commençait à apprendre sur les BRCC. On savait qu'au niveau des BRCC, circuits électriques, il y en avait une seule qui est un projet pilote à celle de Boucherville, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Et puis, donc, c'était une technologie qui était naissante, mais on s'est dit, mon Dieu, et si on avait des bornes à recharge rapide, ça serait génial. Je dirais même qu'un peu naïvement, je ne savais même pas que ma Volt, même si j'en avais une au tout début, qu'elle ne se branchait pas sur les BRCC. Fait que, comme d'autres, j'ai fait le saut dans mes débuts. Mais bon, toujours est-il qu'on cherchait à dire ben, ça va nous prendre une infrastructure de recharge rapide partout. Comme dit Daniel Breton aujourd'hui, je crois toujours que c'est un service essentiel et que ça fait partie, comme nos routes pavées aujourd'hui, de besoins pour couvrir le territoire d'un minimum au niveau national. Ceci étant dit, en 2014, l'idée d'avoir un réseau, des corridors de bornes à recharge rapide s'installait. On avait des discussions justement avec des électromobilistes. Bon, sans trop savoir si c'était des gens de la VEC ou juste des gens sur les réseaux sociaux. Là, ça s'amenait. Puis là, l'idée de dire, ouais, mais il faudrait peut-être avoir un regroupement, puis il faut trouver une façon de financer. Fait que moi, comme dans n'importe quelle occasion entrepreneuriale, c'était puis de projet de développement, c'était de voir comment on peut monter ce projet-là, comment ça coûte. Fait que juste aller chercher l'information. Combien ça coûte une BRCC, c'était déjà un exploit parce que c'est nouveau puis c'est pas des prix affichés comme sur Amazon. Hein. Alors, ouais. Fait qu'on apprend là-dedans. Et puis, il y avait eu à cette époque-là, au fil de discussion, j'ai fini par faire la rencontre de Sylvain Juteau à cette époque-là. C'est même à ce moment-là que je suis allé acheter ma Heavy Duty. Et puis, il y avait j'ai discuté avec Sylvain Juteau parce qu'il y avait une initiative au départ pour une coopérative, puis une coopérative au niveau du Québec, donc au niveau national. Sauf que il y avait aussi Hydro-Québec qui s'en venait avec le partenariat avec Adénergie pour les BRCC, puis il y avait eu la rumeur, on est à l'automne 2014, là, décembre, là, puis là, la rumeur s'en venait que ça allait avoir un programme à 50-50. Fait que on brasse tout ça, puis rendu à l'hiver, rendu janvier-février, on sentait qu'au niveau de la structure légale, puis des possibilités, puis au niveau de la mobilité des gens aussi, la coopérative n'a pas pu avoir lieu, quoique des grands efforts qui ont été faits dans ce dossier-là. Mais bon, on voit que ça n'a pas été jusqu'au bout. Puis là, l'idée était aussi que, bon, j'avais eu peut-être de mon côté des expériences avec le mode coopératif. Puis en termes de structure légale, ça s'appliquait peut-être pas très bien. Puis je crois qu'au niveau d'un OSBL, au niveau OSBL, avec certains programmes qui existaient déjà dans la région, donc on n'est pas allé demander des programmes spécifiques pour ça. Donc, avec une mobilisation régionale, j'arrivais vraiment avec l'idée qu'on pourrait, avec un corridor puis avec une mobilisation, réussir à financer ça. Surtout quand le programme à 50 % est arrivé, je me dis, mon Dieu, ouais, un projet, on a déjà 50 % de financement, c'est déjà 50 % financé, c'est dans la poche. Non, mais en partant déjà, puis je dis, bon, c'est peut-être mon côté bélier, go, on fonce, puis on va de l'avant. Fait que monte une structure financière, essaie de faire le tour de la Gaspésie, il va avec des bornes maximum 100 km entre les bornes.
Maximum combien?
Maximum 100 km. Il fallait que ça soit en bas de 100. Okay. On a deux, trois tronçons là, qui sont entre 96, 98 km. Là. On sait qu'ils sont peut-être un peu plus problématiques, mais... Fait que c'est, mais sinon, généralement, on est vraiment plus dans le 60-80 km entre les bornes. Mais tout ça, c'était pour hausser à des endroits stratégiques puis avoir le minimum de bornes pour faire tout le tour de la Gaspésie. Parce qu'on aurait pu en mettre 13, 14, 15, 16, mais là, on aurait aussi gonflé le budget.
Donc, à cette époque-là, oui. quand tu as commencé à aller chercher des gens intéressés à monter le projet, est-ce que vous aviez déjà une carte de position où vous voyez les bornes? J'imagine que c'était clair dès le début que les bornes devaient être disposées le long, par exemple, tout le long de la côte là, de la péninsule, autant du côté nord que du côté sud de la péninsule gaspésienne, pour être capable de couvrir les routes plus, entre guillemets, touristiques. J'imagine que c'était déjà dans vos plans.
Oui, bien, c'est sûr que au départ, moi, je voyais un tronçon du côté nord. Évidemment, je voulais favoriser le côté nord, soit par rapport au côté sud. On dit souvent, on entend que c'est défavorisé côté touristique. Les gens passent du côté sud. Mais bon, toujours est-il que au départ, le projet, je voulais même le faire en deux phases. Puis, j'avais déjà une idée des positions du côté nord. Fait que c'était un peu naturel que de Matane, Saint-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Grande-Vallée, on est tous à peu près à 80-60 km d'intervalle. C'était déjà... il y avait un village relais dans tout ça. Donc, ça devenait un peu naturel par le côté nord, où est-ce qu'on place les bornes. Côté sud, peut-être un peu moins. Et puis, au départ, j'ai eu la discussion avec Rémi Saint-Amand. Et puis, le dossier a glissé un peu aussi avec David Sylvestre, là, commencé aujourd'hui, là, du côté de l'AVEC. Là. Je pense que Rémi Saint-Amand a fait une très bonne job, mais il y a eu la succession. Au début, c'est ça, c'est qu'on cherchait à disposer les bornes, puis à partir de Matane ou d'Amqui, à partir du moment qu'on choisit de mettre une borne à une position, toutes les autres décalent. Fait que si on en met une plus proche, on avait choisi Carleton au lieu de New Richmond, il aurait fallu tout décaler les autres bornes après, puis ça en aurait fait une de plus loin. Puis d'ailleurs, ça, c'était peut-être le cas de particulier de Carleton, qui est aussi très... qui était un peu déçu au départ de pas faire partie de ce projet-là, mais qu'on a toujours dit que les bornes rapides n'étaient pas particulièrement pour le développement d'une localité, mais étaient vraiment pour couvrir l'ensemble du territoire pour les longues distances. Donc, ça profitait à toute la région. Mais on sait que Carleton, de leur côté, ont participé à un projet en termes d'autopartage et vont avoir leur propre station avec une borne de recharge rapide. Donc, ça aussi, ça devrait avoir lieu à Carleton. Donc, on est tout à fait content de ça. Mais bon, voilà. Fait qu'au niveau des positions, c'est vraiment par rapport aux distances puis par rapport à des centres-villes où est-ce qu'on aurait une certaine facilité à installer des bornes, où il y aurait quand même un peu de service.
Okay. Donc, une réflexion dans le fond du positionnement qui n'était pas axé juste sur les partenaires, mais qui était aussi axé sur... où géographiquement ça serait le plus intelligent de les placer. Moi, je pense que ça vaut la peine peut-être, Danny, de juste faire une petite mise en contexte pour que les gens comprennent bien que le modèle d'affaires, je dis actuel parce que là, avec les annonces des dernières semaines, on sait que ça va probablement changer, mais dans le modèle d'affaires actuel, pour qu'une borne rapide du circuit électrique soit installée, il doit y avoir la participation d'un partenaire, donc qui va dire que ce soit un commerce, une ville ou peu importe, qui dit venez installer une borne rapide ici, je vais en défrayer 50 % des coûts, puis le circuit électrique défraie l'autre 50 % des coûts. Mm-hmm. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les bornes, on ne les met pas nécessairement là où il y a un besoin, on les met là où il y a quelqu'un qui accepte d'en payer la moitié. Tu sais, je simplifie un peu, là.
En plus.
Mais quand on regarde le développement au Québec, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Vous autres, ce qui est tout à fait novateur dans votre approche, c'est que vous avez déterminé où est-ce que ça prenait des bornes et vous êtes arrangé pour trouver les sous pour que là où il y ait des besoins, vous soyez capable de financer votre 50 % de la borne là où vous la vouliez. Je pense que c'est un peu différent de ce qu'on vit dans le reste du Québec où parfois les gens se disent « mais pourquoi ils l'ont mis là? » Ben, ils l'ont mis là parce que c'est le propriétaire là qui a accepté de payer l'autre 50 %, tu comprends? Je comprends que ça serait plus brillant de le mettre de l'autre bord de la rue dans l'autre commerce ou à 5 km dans le cours de tel autre commerce, mais lui n'embarque embarquait pas dans ce mode-là. Il était pas prêt à payer le 50 %. Ça, c'est une des raisons. L'autre affaire, c'est que ça prend une certaine infrastructure électrique aussi. Donc, on peut pas les mettre n'importe où, ces bornes-là, également, parce que ça prend un approvisionnement en électricité à haute tension, là, à moyenne tension, en fait, qui est pas disponible, par exemple, en milieu résidentiel ou même dans certains milieux plus commerciaux. Des fois, l'électricité est loin de l'endroit où on voudrait mettre la borne et là, les coûts explosent rapidement.
Bien, même Amqui, justement, c'était un endroit où est-ce que c'était le lieu choisi, parce que souvent, on a fait affaire avec des municipalités. Ça, c'est un choix, d'ailleurs, sur lequel je pourrais revenir, sur des terrains municipaux. Afin justement pour pas attendre de faire affaire avec des commerces privés, avec des programmes d'aide publique. Puis si ces aides publiques-là favorisent une entreprise plus qu'une autre, bien souvent les aides sont réduites. Et puis, on voulait pas non plus, on voulait faire ça assez rapidement, puis pas non plus avoir de chicanes, puis dire des entreprises, ben pourquoi moi j'ai pas été courant, puis pourquoi, bon. Fait qu'on est, mon objectif est toujours de faire affaire avec les municipalités qui ont choisi sur quel terrain ils voulaient, puis sur le terrain que les municipalités ont choisi, là où ils voulaient la borne, par exemple, à Amqui, on n'était pas tout à fait proche, là, il y avait, on s'est posé la question si on avait accès, si c'était pas trop loin du triphasé, parce que le triphasé, là, il n'était pas proche-proche, là. Alors, la tournée qu'on a faite, c'est que quand on a choisi des positions initiales, il y a quand même une tournée de la Gaspésie qui s'est faite en deux jours, là, avec nos représentants du circuit électrique, là, avec un ingénieur et puis notre chef relation d'affaires. Et puis, ça a été un cours de génie électrique et civil. Là. Ça a été très intéressant.
Bon, écoute, juste pour nous donner une idée de ce projet-là, vous avez trouvé donc des partenaires dans la région de la Gaspésie, des gens prêts à s'impliquer financièrement d'abord, parce qu'il faut le 50 % qui est payé par le circuit électrique, ça veut dire qu'il y a un autre 50 % qui doit être payé pour chaque borne un peu partout.
Voilà.
Vous avez déterminé les endroits. Et là, combien de bornes vous avez installées là, dans cette phase-là là, d'installation de bornes rapides autour de la Gaspésie?
Il y en a eu 11. Donc, il y a eu 11 bornes. Et puis, pour faire le tour de la Gaspésie, et ça, peut-être qu'il y en a peu qui le savent, sauf par chez nous, on le sait très bien, la Gaspésie, il y a deux Gaspésies. Il y a une Gaspésie touristique et une Gaspésie administrative. Fait que déjà, quand on fait des demandes, Gaspésie touristique, nous, c'est la boucle complète quand on passe de Sainte-Flavie, Mont-Joli, puis on fait le tour de la Gaspésie. Faut savoir que quand on est rendu là, on est juste en Gaspésie touristique, parce que c'est pas la Gaspésie administrative. On est encore au Bas-Saint-Laurent. Fait que même Matane, Amqui font partie du Bas-Saint-Laurent. Donc, il a fallu faire des demandes à deux programmes différents, parce qu'il y en avait un programme régional, habituellement, qui est attribué à la Gaspésie. Il a fallu justifier nos coûts pour les 9 bornes de la Gaspésie, puis être capable de financer et justifier nos pourcentages d'aide en fonction des deux bornes du Bas-Saint-Laurent.
Quand tu dis programme, Dani, je veux bien te suivre, c'est que contrairement, par exemple, à un Saint-Hubert qui se fait payer la moitié de la borne par le circuit électrique puis sort 50 % du coût de ses poches puis paye, vous autres, vous avez frappé à des portes pour des programmes gouvernementaux pour aller chercher des sous pour vous aider là-dedans, c'est ça que tu veux dire?
Pour des projets structurants, pour du développement. On est allé chercher, comme plusieurs entreprises ou organismes ont accès à ces mêmes programmes-là avec des critères bien spécifiques. Ben, nous, on est allé, on avait un fonds d'aide aux initiatives, initiatives régionales. Donc, où est-ce qu'on est allé chercher un bon montant, donc au niveau du ministère de l'Économie. Et puis, on a complété au niveau local avec chacune des MRC, chacune des SADC du territoire. Et on a un petit montant qui est venu clôturer le tout venant d'un fonds conjoncturel de développement au niveau du ministère des Affaires municipales. On est allé chercher des montants de ce côté-là. On est allé chercher le montant, mais on est quand même allé emprunter un montant aussi, donc un prêt qui doit aussi être couvert et sur lequel on se basait sur des revenus de commandite. des revenus de réseau. Fait que c'est ça qu'on est en train de développer aussi pour être capable de couvrir à long terme l'entretien et le développement futur aussi du réseau. Et puis, d'où l'idée de la phase 2, là, ça en fait partie.
Donc, la phase 1, c'est les 11 bornes rapides dont on parle depuis tantôt.
Oui.
Puis là, il y a une autre phase à votre projet, c'est ça?
C'est ça, exactement. La nouvelle phase, ben, celle-ci, c'était justement pour répondre à certaines questions qu'on avait, c'est comment le milieu ou comment les entreprises ou les gens de la place vont contribuer. Et cette question-là, on l'a répondu. Avec l'autre question aussi qu'on entend souvent, c'est que pourquoi il n'y a pas de borne de niveau 2 à côté des BRCC? Pourquoi pas avoir installé au moins une borne de niveau 2 avec la BRCC pour la sécurité? Et puis justement, on voulait à long terme focusser sur les entreprises pour l'installation de bornes à destination. Et ça a été l'idée dans une deuxième phase pour briser un peu le cercle vicieux pour partir d'un réseau où on n'a personne. On a des BRCC, mais en fait, on n'a pas encore la manne ou la masse de véhicules électriques en Gaspésie. On n'a pas de beaucoup d'immatriculation. Fait qu'il faut compter beaucoup sur les visiteurs. Fait que les entreprises en tant que telles ne sont pas non plus intéressées commercialement parlant à investir une tonne là-dedans. Fait qu'il faut briser le cercle vicieux, puis on veut les regrouper puis les mobiliser. Fait que les bornes à destination, donc écrire une phase 2 avec un autre programme où est-ce qu'on a un financement quand même à 50 % au niveau des programmes qui est fait pour les entreprises. Mais on les a regroupés avec l'OSBL qui est porteur du projet et on va aller de l'avant avec une centaine de bornes. Donc, on a un budget pour une centaine de bornes niveau 2. C'est enclenché. On est en période d'inscription et puis il va y avoir des premières installations cet été en espérant que tout se déroule comme prévu. Et puis, évidemment, là, on ne pourra pas installer 100 bornes en l'espace d'un mois. Fait que ça va se poursuivre là, dans les prochaines semaines, prochains mois jusqu'à l'automne, ça c'est certain. Exact. Mais on va mettre la gomme là-dessus. Fait qu'en fin de compte, c'est une double mission qui est autant de renforcer l'infrastructure, la compléter avec des bornes à destination, mais en même temps aussi de mobiliser aussi le secteur privé, les lieux publics et puis justement de créer une forme d'autonomie pour qu'à long terme, justement, on ait une mobilisation puis probablement une possibilité de développer l'infrastructure sans avoir toujours recours à des programmes gouvernementaux puis être encore plus autonome localement.
Tout à fait. Écoute, je trouve ça vraiment inspirant. En fait, je trouve que ce qui démarque vos initiatives, c'est le fait d'avoir organisé, c'est-à-dire que ce n'est pas 11 petites initiatives. Vous vous êtes regroupés pour installer des bornes, mais les 11 bornes sont donc installées de façon, là, je parle des rapides, de façon intelligente, coordonnée, logique, puis tout à fait, je trouve, de toute façon, tout à fait synchrone avec l'économie que vous avez. Il y a beaucoup de tourisme également. Donc, les gens qui veulent aller visiter la Gaspésie, qui ont une voiture électrique, ils n'ont même pas à se casser la tête. Puis, avec des bornes de niveau 2 qui vont s'ajouter, donc, pour faciliter d'avoir des pleines charges ou encore des charges d'appoint ou même dans les relais, les gîtes, les bed and breakfast, les hôtels, peu importe. Les gens qui arrêtent pour la nuit ne sont pas obligés de prendre une borne rapide à ce moment-là, peuvent se brancher à destination. Puis, on repart le lendemain matin, on est plein. Je trouve que c'est tout à fait génial. Permets-moi de te demander, je sais que David Sylvestre, donc, qui est notre directeur régional dans la région de la Gaspésie, s'implique dans votre projet d'en phase 2, il est là.
Effectivement. Donc, depuis, ça fait longtemps que je discute avec. Et puis, au niveau de la phase 2, puis la sélection des bornes, même au niveau du ministère des Affaires municipales. Donc, on nous incitait à aller chercher quand même plusieurs personnes, que ça ne soit pas fait en vase clos, mais qu'on ait des personnes représentatives pour avoir une sélection qui va être juste équitable avec des critères qui ont été établis et puis qui ne sont pas exhaustifs, donc évidemment, qui peuvent s'ajouter. Mais donc, David fait partie officiellement là, du comité de suivi, puis de suivi de sélection là, des bornes qui va suivre.
Ben, c'est pas mal intéressant. Écoute-moi, en terminant, Danny, ce que j'ai envie de dire à nos auditeurs, là, c'est que si vous n'avez pas encore fait votre choix de destination pour vos vacances d'été, je sais que plusieurs électromobilistes l'année passée, l'autre année avant, ont fait le tour de la Gaspésie. Il y en a même qui l'ont fait avant même que toutes ces bornes-là soient installées, puis ont réussi à le faire. Fait que c'est d'autant plus facile maintenant. Moi, je vous invite sur les différents forums de l'AVEC ou les sites web, Facebook, là, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, qui vous expliquent en détail où ils ont arrêté, puis à quel point c'est agréable. En fait, même, c'est plus facile de faire le tour de la Gaspésie en auto électrique que la très grande majorité des régions du Québec. Puis on sait que les électromobilistes sont réputés pour savoir remercier les gens qui embrassent la cause de l'électromobilité en les encourageant. On le fait avec les restaurants puis les commerces qui ont installé des bornes. Bien, pour les régions touristiques, je pense que c'est un peu la même logique qui s'applique. Donc, j'encourage les gens là, qui auraient le goût d'aller visiter la Gaspésie, de faire le tour, de profiter de routes puis de panoramas tout à fait exceptionnels, tout en ayant une tranquillité d'esprit au niveau de la recharge, de faire le tour. Si les gens veulent avoir un peu d'informations, Danny, qui sont pas inquiètes, mais qui aimeraient un peu se faire renseigner sur bon, c'est où les spots arrêtés, qu'est-ce qu'il y a à faire proche des bornes. Est-ce qu'il y a de l'information qui est disponible pour faciliter le je sais pas si on devrait appeler ça l'écolo-tourisme, là, mais en tout cas, l'électro-tourisme, en tout cas?
Bien, je dois avouer que de notre côté, on est en mode construction du réseau. Fait que c'est sûr que l'organisation de ce côté-là n'est pas mieux organisée qu'ailleurs. Je sais que la plupart du temps, on cherche sur Google, PlugShare, quoi que ce soit, puis on trouve déjà de l'information. On va sur nos réseaux sociaux, puis on voit déjà les gens qui ont de l'expérience et on suit les périples. Je pense que ça reste peut-être un peu la meilleure façon. Sinon, les guides touristiques qui existent déjà sont aussi bons, qu'on soit électromobiliste ou pas. C'est surtout de savoir où s'arrêter puis quel choix on a à faire. On les fait en fonction de nos besoins d'électromobiliste. Bien, on complète avec les guides officiels. Mais au lieu de toujours chercher à 50 places différentes, bien, avec le temps, tous les membres qui vont s'inscrire, tous les gens qui vont installer des bornes de niveau 2, on invite aussi toutes les entreprises de la Gaspésie à participer au mouvement, c'est de s'inscrire. Et on a un site répertoire. Donc, le site, pour l'instant, n'est pas encore à n'est pas pleinement fonctionnel, mais c'est prévu donc dans les prochains mois, justement, d'y mettre des efforts pour que ça devienne une plateforme, justement, pour trouver l'information. Fait que si c'est pas vraiment pour l'été, ben, si tout se déroule comme prévu, ça, on peut penser pour les prochaines années, ça va continuer de plus belle. Le besoin, comme je le dis, c'est comme on installe une prise électrique, c'est pas bon juste pour un ou deux, trois ans. Hein, c'est bon pour 20 ans, c'est pas bon pour la durée de la maison. Alors, ça va être là pour les prochaines années. Fait que c'est vraiment pas vraiment un besoin à court terme. Fait que c'est de revenir puis de voir l'évolution de tout ça. C'est sûr que, bon, j'ai un penchant pour inviter les gens à Gaspésie, mais j'aimerais souligner de façon fraternelle avec les autres régions. Je suis au courant de d'autres initiatives. Je sais que d'autres développements vont venir. Je crois que le développement de l'électromobilité se fait souvent pas assez rapidement pour nous. Peut-être que dans l'histoire, ça se fait quand même assez rapidement. Je crois que c'est ça. Il ne faut pas perdre espoir. Puis d'autres régions aussi vont embarquer sous la map. Puis il y a peut-être des surprises, des collaborations qui vont avoir lieu. Et puis je pense que toutes les régions du Québec auraient avantage d'être visitées en tant qu'électromobiliste. Donc redécouvrir le Québec.
Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, l'électro-tourisme, appelons-le comme ça, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus populaire. Puis c'est certain que quand des régions sont bien desservies, comme c'est le cas dans votre région, bien, c'est rassurant. Tu sais, faut dire que dans votre coin, la disposition des bornes rapides fait en sorte que même les voitures tout électriques de première génération, là, généralement, sont capables. Là, il n'y a jamais plus de 100 km. C'est toujours en bas de 100 km de distance entre chacune des bornes rapides. La plupart étant à quoi? Entre 60 et 80 km de distance.
C'est ça, exactement.
Donc, c'est assez facile, même pour une voiture toute électrique de petite autonomie, de faire le tour. Ça, je disais, c'est rassurant. Les gens n'ont pas à s'inquiéter. On sait qu'on va être capable de circuler, et ce, sans trop avoir à s'inquiéter. Écoute, Danny, moi, au nom de l'Association des véhicules électriques du Québec, j'ai envie de te remercier pour le travail inspirant que tu fais, qui, bien évidemment, trace la voie puis donne des envies à d'autres régions, et certainement que d'autres régions pourront suivre le pas. Puis on va sûrement avoir la chance de se rencontrer. Là, je planifie moi aussi, là, peut-être pas dans le courant de l'été parce que j'ai déjà des plans qui sont faits, mais peut-être de bonne heure après l'été ou plus tard l'année prochaine, d'aller faire un tour dans la région, puis on ira se serrer la pince en personne dans ton coin de pays.
Bien, certainement.
Je te remercie beaucoup.
Ça fait plaisir. Bye-bye.
Merci, Danny. Au revoir.
Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
Gabriella, j'ai 9 ans, puis je me suis toujours demandé c'est quoi la plus longue durée de vie. Est-ce que c'est l'auto électrique ou l'auto à essence? Merci, bye!
Oh là là, Gabriella, ben, tout d'abord, merci beaucoup pour ta question. Hein? Question fort pertinente. En fait, on se la fait souvent poser. Les gens nous demandent si la voiture électrique va durer aussi longtemps. Je te dirais que c'est même une des choses qui fait le plus peur aux gens qui sont sur le point de s'acheter une voiture électrique, c'est-à-dire qu'ils ont peur que la voiture, la batterie principalement, hein, soit pas d'assez longue durée, et puis qu'à un moment donné, la voiture fonctionne plus bien, qu'on soit obligé de faire des changements ou que ça ne nous dure pas, donc la durée qu'on a actuellement sur une voiture à essence. En fait, pour te répondre en toute honnêteté, tu sais, les voitures électriques telles qu'on les connaît actuellement, donc celles qu'on voit sur le marché, il y en a ici au Canada depuis à peu près 2011, donc qu'on peut acheter, là, que le grand public peut acheter des voitures électriques. On est en 2018, ça fait 7 ans. Ça fait pas très longtemps, donc 7 ans, là, quelqu'un qui achetait une voiture en 2011, 7 ans plus tard, on est aujourd'hui en 2018, la voiture est encore bonne. En fait, je te dirais, la très grande majorité de la voiture est très semblable à une voiture à essence. Donc, la carrosserie, la suspension, le système de direction, c'est la même chose qu'une voiture à essence. Donc, ça n'a pas... qu'elle soit électrique ou pas, n'a pas grand-chose à voir dans la durabilité. Maintenant, si on parle du moteur comme tel, si on regarde juste le moteur, un moteur électrique, c'est, comme on dit dans le jargon, c'est pas tuable. Hein? Donc, ça s'use pas tellement, du moins beaucoup moins vite qu'un moteur à essence qui a des pistons avec une explosion, de la chaleur qui va faire en sorte qu'avec le temps, les pièces, le métal va se transformer, peut se déformer aussi. Et alors qu'un moteur électrique, normalement, au bout de 5, 10, 15 ans, son état de santé devrait être assez comparable à ce que c'était au début. Par contre, dans le cas d'une voiture à essence, vois-tu, la réservoir à essence va être assez, bonne assez longtemps, tant qu'elle ne sera pas oxydée, rouillée, puis qu'il n'y aura pas de trou dedans, elle va être bonne assez longtemps. Dans le cas de la batterie du véhicule, qui est un peu l'équivalent, une pile, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, ça s'use tranquillement pas vite, donc ça perd un peu de sa capacité. Je dis un peu parce que dans les conditions normales d'opération, On va perdre quelques pourcentages, donc on peut, la batterie peut descendre là, à 85-80%, mais ça ne fait pas en sorte que le véhicule ne fonctionne pas. Ça fait en sorte que notre voiture va peut-être aller un petit peu moins loin qu'elle allait au début. Ceci dit, le véhicule va encore fonctionner. Alors, moi, je dis souvent, il y a plus de chances que ce soit la carrosserie du véhicule qui nous lâche, que ce soit la batterie, du moins ultimement, là, sur les véhicules modernes. Donc, est-ce que le véhicule électrique dure moins longtemps que la voiture à essence? Vraiment pas. Est-ce qu'il va durer plus longtemps? Oh, ça reste à voir. Il est encore un peu tôt pour le dire. Mais ce que je dirais, par contre, c'est que si quelqu'un que tu connais, Gabriella, veut s'acheter une voiture électrique et qu'elle hésite parce qu'elle a peur que la voiture ne dure pas aussi longtemps que la voiture à essence, moi, je pense que tu peux rassurer tout de suite cette personne-là puis lui dire que, minimalement, la voiture va durer tout aussi longtemps qu'une voiture équivalente à essence. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 6 juillet, c'est essai routier à Port-Cartier. C'est de 17h à 20h30 dans le stationnement du bureau syndical situé au 178 Portage des Mousses à Port-Cartier. Essai routier, kiosque d'information. Le Branchez-vous Montréal, grand événement les 6 et 7 juillet 2018. C'est au Cégep Marie-Victorin, salle des Îlets, locale C108, au 5000 rue Marie-Victorin à Montréal. Des essais routiers, de l'information et une inscription à l'avance est nécessaire pour réserver le circuit d'essai. Festival des guitares le 7 juillet 2018 de 10h à 16h au parc du Centenaire de Lac-aux-Saumon, essais routiers et kiosques d'information. Joliette électrique le 7 juillet 2018 de 10h à 16h, c'est à la place Bourget de Joliette, conférence de l'AVEC, essais routiers, présentation de M. Jacques Duval. Deux montagnes en fête et exposition de voitures électriques le 14 juillet 2018 de 14h à 18h au 150 chemin d'Oka, deux montagnes, essais routiers, kiosque d'information et exposition. Et finalement, le festival H2O, 14 juillet 2018 de 10h à 16h au 400 principal sud, Amos. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Danny Bergeron et la petite Gabriella, pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Et pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous aurez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!